Ensuite, oui,
donc je vais simplement présenter l'ouvrage, en fait. Hein, c'est tout ce que je... Je ne vais pas faire plus que ça. Donc, c'est un ouvrage... Martin Gross n'est pas là avec moi, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a dirigé alors pleinement à deux, hein, et avec des écritures même à quatre mains, enfin bon, pour l'introduction en tout cas. C'est un ouvrage qui est issu d'un colloque qu'on avait organisé à Paris 8 et à l'EHESS en 2015. Et l'idée qui a présidé à ce colloque et puis donc à cet ouvrage, c'était finalement deux grandes idées. D'abord, mettre en avant l'existence et le fonctionnement des mouvements progressistes au sein du christianisme, du judaïsme et de l'islam dans un contexte français qui avait donné l'impression, surtout pendant les manifs pour tous, qu'il y avait un front uni des religions contre l'homosexualité. Alors, en France, certes, ces mouvements sont très minoritaires. Il y a, religieusement, la France, c'est quand même d'abord le catholicisme, et puis ensuite, quelques miettes à droite, à gauche. Et le fait que la hiérarchie catholique soit, une position très, très anti, a peut-être donc un peu déformé le paysage, quoi. La diversité du paysage, je dirais. Donc, en France, même s'ils sont minoritaires, ces mouvements progressistes existent quand même. Et puis, dans d'autres pays, ce sont des mouvements qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, si minoritaires que ça. Et en particulier dans les pays anglo-saxons, il y a des dénominations entières qui se sont engagées pour une pleine reconnaissance et une pleine inclusion des gays et lesbiennes. Alors, je pense notamment à l'Église épiscopalienne des États-Unis, les Quakers en Angleterre, mais en fait partout il y a des Quakers, le judaïsme réformé et reconstructionniste aux États-Unis, et de plus en plus d'ailleurs aussi le judaïsme massorti dans le monde anglophone, un peu aussi en Israël, et même d'ailleurs un peu en France aussi. Ces progressismes existent. Alors, dans l'islam, c'est vrai que, mais là, je laisserai mes aides en parler, ils connaissent ça beaucoup mieux que moi, c'est peut-être plus confidentiel, c'est peut-être un peu plus, c'en est encore à des prémices, disons, mais là aussi, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui existe, et j'en reparlerai un peu plus loin. Donc ça, c'était notre premier souci, de mettre en avant l'existence de ces mouvements, et puis d'autre part, de décloisonner les travaux sur homosexualité et traditions monothéistes. À de très rares exceptions près, les chercheurs en général travaillent sur une tradition religieuse et l'homosexualité, quand ils sont spécialistes de cette question, sans nécessairement mentionner les éventuels emprunts qui sont faits au progressisme d'autres traditions. Alors, par exemple, c'est quelque chose qui est très frappant, je trouve, les mouvements progressistes, donc pro, LGBT, qu'on peut trouver dans le judaïsme et dans le christianisme. On voit très bien qu'il y a énormément de travaux qui sont quasiment fait en commun, notamment dans toute la sphère herméneutique, interprétation des écritures, etc. Et quand il s'agit de parler donc de proposer des lectures, des théologies pro-LGBT, là on fait plus du tout allusion à aux emprunts qu'on a pu faire pour les chrétiens aux juifs, pour les juifs aux chrétiens, etc. Bon, il y a bien sûr un souci aussi de cohérence confessionnelle qui explique ça, mais voilà, il nous semblait que c'était important aussi de mettre un peu en parallèle d'essayer de croiser autant qu'il est possible. Je suis pas sûr que notre ouvrage arrive pleinement à croiser les choses, mais enfin au moins on a réussi à mettre côte à côte des études sur les progressismes juifs, musulmans et chrétiens, liés à l'homosexualité, bien sûr, hein, c'est de ce progressisme-là dont je parle, pas d'un autre. Donc voilà, donc il y avait vraiment une volonté de décloisonner, et puis décloisonner aussi sur le plan disciplinaire, puisque il nous a semblé vraiment important que on puisse montrer finalement que sur ces progressismes, il existe des travaux et que ces travaux continuent et ont besoin de s'enrichir les uns des autres, que ce soit au niveau des travaux exégétiques sur les textes sacrés, des travaux sociologiques, hein, sociologie des religions, des travaux historiques et des travaux, disons, plus généralement théologiques. Donc on a dans cet ouvrage des contributions qui représentent ces différentes disciplines. Alors, je voudrais parler un peu de mon dada, parce que si Martine était là, ce ne serait pas ça dont elle parlerait, j'en suis sûre, mais comme c'est moi qui suis là, je vais parler de ce qui m'intéresse plus particulièrement, et à savoir l'approche queer en théologie, puisque ces mouvements progressistes, chrétiens, juifs et musulmans, auxquels notre ouvrage est consacré, ont été rendus possibles très largement grâce au développement de la théologie queer dans chacune des traditions monothéiste, à commencer par le christianisme, puisque c'est quand même là où ça a commencé, disons, chronologiquement. Alors, je voudrais juste faire je vais essayer d'en parler, je ne sais pas combien de temps il me reste.
15 minutes.
Oh, ça va, bon, j'ai le temps. Je voudrais juste faire une précision de quoi on parle quand on parle de théologie queer, ou peut-être, vaudrait-il mieux dire d'ailleurs, approche queer de la théologie. De quoi on parle? Alors, c'est pas la même chose que les théologies de libération gay qui ont pu exister, en particulier dans les années 70, 80, etc. Disons, grossièrement, la différence, c'est la suivante. Les théologies de libération gay, ou lesbienne d'ailleurs, partaient de l'expérience d'une sexualité alternative pour parvenir à une théologie. Alors, c'était ça a été quelque chose d'important, hein, dans le développement de progressisme d'un progressisme pro-LGBT dans le christianisme, puisque là je parle plus spécifiquement du christianisme. Mais le problème de ces théologies de libération gay, c'est que si elles arrivaient très bien à parler à la communauté chrétienne LGBT, elle parlait beaucoup moins bien au reste, disons, de la communauté chrétienne. C'est-à-dire que, et en particulier les institutions des différentes églises, face à ces théologies, quelque part, posaient même la question, mais est-ce que ce sont même des théologies ? La théologie queer, ou l'approche queer de la théologie, et quelque chose là vraiment de complètement différent. Au lieu de partir d'une expérience sexuelle, on part des grandes catégories de la théologie systématique, et alors en particulier, donc, ce que je connais vraiment, c'est la théologie queer chrétienne, hein, en particulier les deux grandes catégories qui servent de point de départ et vraiment de fondement, hein, pour cette approche, sont celles de création et rédemption, donc vraiment des choses, des piliers de la théologie chrétienne. La théologie queer fait usage des grandes ressources de la tradition chrétienne, à commencer par les écrits des pères de l'Église, et s'engage dans une herméneutique biblique dont la méthode n'a rien, en fait, d'hétérodoxe. L'expérience gay et lesbienne, alors elle n'est pas complètement absente, mais en fait, elle ne sert que de positionnement d'où on peut regarder. C'est donc un décentrage, ça sert finalement à être un point duquel on peut décentrer la manière de lire la tradition biblique et théologique. Décentrage qui fait apparaître une différence, un décalage, une étrangeté, queerness, hein, par rapport au discours théologique dominant des églises. C'est donc une théologie qui ne s'adresse pas seulement aux gays et lesbiennes et alliés LGBTIQ, enfin bref, plus, voilà, mais qui s'adresse vraiment à l'ensemble de la communauté religieuse, quelle que soit sa sexualité, quel que soit son genre, etc., etc. Et donc, par là, c'est une théologie qui propose de renouveler l'imagination religieuse de tous. Hein, c'est voilà, c'est le renouvellement pour tous. Alors, je voudrais donner un exemple de cette potentialité de la théologie queer, donc qui est alors là que je tire de mes travaux actuels, hein, qui est l'élaboration des liturgies de mariage inclusif. Alors, je prendrai ici celui de l'Église épiscopalienne des États-Unis, donc qui a redéfini en 2015. La définition du mariage pour le rendre inclusive et qui a élaboré des liturgies de mariage donc qui peuvent être utilisées aussi bien par les couples de même sexe que par les couples de sexes différents. Alors cette liturgie c'est vraiment le fruit d'une approche queer qui part de la catégorie théologique d'alliance, covenant en anglais, alors qui est vraiment voilà, une de ces gros mots hein, de la théologie, l'alliance qui est au cœur de toutes les relations humaines au sein de l'Église. Hein. D'un point de vue théologique, une relation ecclésiale a toujours en son cœur une alliance, un covenant qui doit finalement un peu à l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Plutôt que de considérer à part les couples de même sexe, ceux-ci ont été assimilés à une catégorie plus large et spécifiquement chrétienne, d'ailleurs on pourrait dire ici judéo-chrétienne, la maisonnée, hein, household, construite sur une alliance. Cette maisonnée au sein de la tradition chrétienne, ça peut être à la fois les couples mariés, traditionnellement, avec la famille qu'ils fondent, ou les communautés monastiques, puisque les membres des communautés monastiques sont également liés les uns aux autres par des vœux. Et en particulier, le vœu d'obéissance qui soude, si on peut dire, la communauté. Le fondement d'une relation d'alliance chrétienne, donc, ce sont des vœux dont le sens est perçu comme une offrande de soi qui imite l'offrande que le Christ fait de lui-même à Dieu. Les couples de même sexe, avant même qu'on décide s'il faut ou non appeler leur union mariage, se sont donc trouvés intégrés aux relations d'alliance à partir du moment où ces couples répondent aux mêmes critères d'offrande de soi que les communautés monastiques, les couples mariés, offrande de soi dont les fruits, comme à l'image de ce qui se passe dans les communautés monastiques, ne sont pas réductibles à la procréation. Alors, cette analyse décalée du mariage, parce que ça, en fait, cette approche, si vous voulez, ça correspond à une analyse relativement décalée du mariage par rapport à celle qu'on trouve le plus souvent dans le protestantisme contemporain, puisque on approche le mariage non pas par la différence des sexes, la procréation, je ne sais quoi, mais par le fait que c'est une alliance, tout simplement. Eh bien, cette analyse décalée me semble tout à fait typique de l'approche théologique queer. Si les unions de même sexe y trouvent une authenticité chrétienne, cette approche représente aussi une autre manière de concevoir le mariage hétérosexuel, qui est tout aussi en résonance avec la tradition chrétienne que la doxa actuelle, qui finalement n'est pas si ancienne que ça, hein, sur la complémentarité des sexes. En gros, ça date du début du XXe siècle, peut-être éventuellement 19e, là tu pourrais le dire plus exactement que moi, mais certainement pas avant de toute façon. Donc c'est vraiment une autre manière de réinvestir la tradition chrétienne pour aborder le mariage dans un cadre beaucoup plus large qui est celui des relations d'alliance. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que l'Église épiscopalienne s'engage à présent dans une révision des liturgies nuptiales en général, et il est certain que la nouvelle liturgie inclusive qui a été autorisée en 2015 jouera un rôle majeur donc, dans cette révision liturgique d'ampleur. Donc voilà pour une illustration, si vous voulez, de la capacité de la théologie queer à parler à tous et à transformer l'imagination religieuse pour tous. Alors, la théologie queer, là, j'ai pas le temps d'en parler, donc je veux dire deux mots. Elle a également trouvé une place dans le judaïsme, et d'ailleurs pas seulement dans le judaïsme de facture réformé ou reconstructionniste aux États-Unis, puisque c'est quand même des États-Unis que c'est venu, mais aussi, alors très 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 marginalement certes, dans le judaïsme orthodoxe. Il y a un rabbin, je crois d'ailleurs le seul rabbin gay orthodoxe, Steven Greenberg, qui a publié en 2001 un livre absolument fascinant qui s'appelle Wrestling with God and Man, où justement il relie la tradition juive, si vous voulez, d'une manière qui permet l'inclusion justement des gays et lesbiennes dans la tradition juive orthodoxe.
Aux États-Unis?
Oui, aux États-Unis.
On va en parler, en tout cas.
Ah bah, très bien, donc ça me permet. Et puis, on retrouve aussi, alors là vraiment on en est à des prémices, mais on retrouve quand même aussi une approche queer dans la théologie islamique. Alors c'est beaucoup plus récent, beaucoup plus confidentiel, mais quand même il y a eu un livre récemment, et je pense que votre livre qui va sortir, si j'ai bien compris, continue sur cette lignée. Mais en 2010, là encore aux États-Unis, Scott Kugel a publié un livre qui s'appelle Homosexuality in Islam, où il décrit justement son livre comme d'une manière qui rejoint le projet de la théologie queer, même si Kugel n'utilise jamais le mot de queer. À mon avis, mais je vous laisserai peut-être en parler, mais moi mon impression c'est que c'était plutôt parce qu'il voulait que son livre puisse être reçu par la communauté musulmane dans son ensemble, et le mot queer sans doute aurait peut-être eu un effet décourageant aux oreilles de beaucoup. Enfin, moi c'est l'interprétation personnelle que j'en ai eue, je n'en ai pas parlé avec lui, donc voilà. Alors pour revenir à notre ouvrage collectif qu'on a fait avec Martine, on voulait donc prendre acte de l'existence de ces progressismes dans les trois monothéismes et présenter l'éventail le plus large possible des travaux menés actuellement. Alors l'ouvrage est loin d'être exhaustif. Personnellement, un de mes regrets, c'est qu'on n'a pas eu toutes les contributions sur l'islam qu'on aurait pu avoir. Mais enfin, on a cherché à montrer autant qu'on pouvait les différents niveaux sur lesquels s'opère une réconciliation en quelque sorte des traditions monothéistes et de l'homosexualité. Donc quatre niveaux qu'on a identifiés qui forment les quatre parties de notre ouvrage, réconciliation identitaire, niveau identitaire, niveau herméneutique, niveau historiographique et niveau liturgique. Donc je vais dire, il me reste combien de temps là,
pour savoir quelques minutes, pardon.
Ouais, d'accord. Bon, je vais rapidement alors. Rapidement vous présenter ces quatre parties. D'abord, donc la première partie qui est la plus longue, sur le croisement finalement des sociabilités religieuses et des sociabilités gays et lesbiennes. Et en particulier, on s'intéresse il y a un certain nombre de contributions sur les associations LGBT confessionnelles. Et comment ces associations à la fois reflètent des négociations individuelles entre identité homosexuelle et identité religieuse, et puis comment elles s'engagent aussi dans des négociations avec les institutions religieuses. Donc est-ce qu'il faut ne pas être politique et simplement créer un espèce de safe space dans lequel les personnes LGBT chrétiennes ou juives ou musulmanes peuvent se retrouver, ou bien est-ce que il faut qu'il y ait quand même aussi une dimension politique au-delà du safe space, et comment cette dimension politique va-t-elle alors s'exprimer? Est-ce que ça va être en ne cherchant pas à faire concurrence à l'institution religieuse, mais en gardant le dialogue ouvert avec elle? Est-ce que c'est au contraire en proposant des, comme on le voit en particulier aux États-Unis, des églises ou des synagogues gays? Voilà, bon, il y a ces questions qui sont qui sont posées dans cette partie de l'ouvrage. Une deuxième partie donc qui est sur qui considère le retour sur la tradition herméneutique. Je déplore l'absence d'une contribution sur l'islam. C'était notre faute sans doute. On a eu du mal. On avait contacté Mohamed Zahed et puis on avait contacté Scott Kugel aussi. Et puis en fait. On n'avait pas pu financer votre venue d'Afrique du Sud. Scott Kugel n'avait été en Inde quand j'avais envoyé l'email et il l'a lu 3 mois après. Et le programme était déjà fait. Enfin bref, ça s'est mal tombé. Et puis après, on s'est dit que si on voulait demander des contributions supplémentaires, ça allait retarder la publication de l'ouvrage d'au minimum 1 an, voire 2. On sait comment les choses se passent à ce moment-là. Et donc, on s'est dit tant pis, on publie ce qu'on a. Et voilà.
Un deuxième temps.
Peut-être un jour. donc sur les niveaux, disons, herméneutiques, historiographiques et liturgiques, là, on n'a que des contributions sur le christianisme et le judaïsme. Mais enfin, déjà, ça, voilà, c'est déjà mieux que rien, je dirais. Donc sur la tradition herméneutique, la grande question qui est posée en fait, c'est les textes sacrés sont-ils irrémédiablement homophobes? Et la réponse qu'on voit dans les différents mouvements progressistes, eh bien, c'est non, bien sûr que non. Il y a tout un ensemble de stratégies qui sont mises en œuvre pour lire autrement les textes sacrés, un autrement d'ailleurs qui n'est pas toujours moins traditionnel que la doxa actuelle d'une certaine majorité religieuse. Donc on a alors il y a en particulier dans l'ouvrage une contribution sur qui est sur la lecture de l'épisode biblique de Sodome, hein, en montrant finalement que toutes les lectures qui en ont été faites ne lisent pas vraiment le texte. Il y a une contribution sur qui déconstruit l'impossibilité entre guillemets de toute relation homosexuelle entre David et Jonathan dans l'épisode biblique et qui s'interroge justement sur cette obsession de montrer qu'il est absolument impossible de voir quelques relations homosexuelles que ce soit dans cette histoire. Du côté du judaïsme, il y a vraiment une contribution qui est fascinante et c'est ce qui reflète vraiment une tendance extraordinaire dans le judaïsme contemporain d'utiliser l'approche midrashique pour lire la Bible autrement, donc l'approche midrashique qui essaye de lire les blancs du texte sacré, qui est vraiment une méthode d'herméneutique juive extrêmement classique, hein, et en général on raconte une histoire à partir de ces blancs, histoire que des gens comme Jill Hama, Andrew Rama et des gens comme ça, eux écrivent des histoires où ils mettent en avant les potentialités queer du texte biblique. Donc ces histoires ne sont pas des histoires bibliques, mais quand on les a lues et qu'on retourne au texte biblique, on ne peut plus le lire comme avant. Donc c'est un peu cette méthode midrashique. Toutes ces lectures, en fait, sont là pour construire en lieu et place d'une imagination religieuse homophobe, une imagination biblique, je dirais, homophile, hein, donc au contraire d'homophobe, favorable aux personnes LGBT. Troisième partie de l'ouvrage, un retour sur la tradition historiographique. Alors, je crois que j'ai plus le temps, donc. Un retour sur la tradition historiographique avec, en particulier, donc deux choses, une interrogation sur le, on revient sur le débat, hein, sur de savoir si dans la tradition chrétienne, à la suite des écrits de John Boswell, est-ce qu'il y a une tradition chrétienne de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge qui est favorable à l'homosexualité. Comment on peut comprendre les thèses de Boswell? Il y a une contribution là-dessus. Et puis plus généralement, disons, quelle utilisation on peut faire de l'histoire religieuse dans les mouvements progressistes pro-LGBT. Et puis une dernière partie sur la réappropriation de la tradition liturgique par les progressismes pro-LGBT, où en gros la question posée c'est quel rite pour les gays et lesbiennes, et c'est vraiment une question qui prend tout son sens quand on considère les unions, la célébration des unions de même sexe. Faut-il des rites qui soient spécifiques aux unions de même sexe, ou des rites au contraire inclusifs qui sont ouverts à tout le monde? Et c'est une question qui est bien plus complexe en fait que celle de les conservateurs d'un côté diraient ah ben non, il faut cantonner les gays et lesbiennes, de leur côté c'est pas du tout la même chose que le mariage, etc. Et puis les libéraux progressistes qui diraient non, à partir du moment où on est progressiste il faut que ça soit ouvert à tout le monde. En fait c'est bien plus compliqué que ça, parce que même si globalement c'est vrai que souvent on a un peu cette impression, il y a aussi des questions qui traversent les associations LGBT confessionnelles et qui disent oui, mais on a aussi une spécificité qu'il ne faudrait pas perdre, des questions, des pratiques qui nous sont spécifiques, une identité qui nous est spécifique. Est-ce qu'on ne va pas perdre tout ça dans un rite pour tout le monde, etc. Donc c'est en fait des questions extrêmement compliquées, et voilà, on revient là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup.